J'aimerais ce matin vous inviter à partager sur un texte de l'Ancien Testament, un texte qui m'interpelle chaque fois que je le lis, m'amène souvent à lire des textes en parallèle pour mieux comprendre, pour mieux réaliser le contexte dans lequel ceci s'est vécu, ceci s'est passé, tant la chose paraît extraordinaire. C'est dans Daniel au chapitre 4 que j'aimerais vous conduire ce matin. Un chapitre étonnant, s'il en est, qui fait suite d'ailleurs à d'autres moments très étonnants dans la vie de ce roi, Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, suivant les versions. Je lirai dans la Bible du Semeur, qui reprend le terme, je dirais, historique, celui qu'on connaît dans l'histoire que l'on nous enseigne à l'école, Nabucodonosor. Si vous avez Nebuchadnezzar, c'est bien le même personnage, ne vous inquiétez pas. « Moi, Nabucodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et je jouissais de la prospérité dans mon palais. Une nuit, j'ai fait un rêve qui m'a rempli d'effroi. Les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les visions de mon esprit m'ont épouvanté. Alors, j'ai ordonné de convoquer auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me donnent l'interprétation de mon rêve. Les magiciens, les astrologues et les devins se sont présentés. Je leur ai exposé le rêve, mais ils n'ont pas pu m'en donner l'interprétation. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, nommé aussi Belshazzar d'après le nom de mon Dieu. L'esprit des dieux saints réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit, Belshazzar, chef des mages, je sais que l'esprit des dieux saints réside en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Écoute donc les visions que j'ai eues dans mon rêve et donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais couché sur mon lit. Je regardais et voici ce que j'ai vu. Au milieu de la terre se dressait un grand arbre dont la hauteur était immense. L'arbre grandit et devint vigoureux. Son sommet atteignait le ciel et l'on pouvait le voir depuis les confins de la terre. Son feuillage était magnifique et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre et les oiseaux se nichaient dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits. Pendant que je contemplais sur mon lit les visions de mon esprit, je vis apparaître un de ceux qui veillent, un saint qui descendait du ciel. Il cria d'une voix forte cet ordre. « Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s'enfuient de dessous de lui, que les oiseaux quittent ses branches. Laissez cependant dans la terre la souche et ses racines, mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel, qu'ils se nourrissent d'herbe avec les animaux. Il perdra la raison et se comportera non comme un homme, mais comme un animal. » Jusqu'à ce qu'aient passé sept temps. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut et qu'il établit roi le plus insignifiant des hommes. Tel est le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nabucodonosor. Quant à toi, Belshazzar, donne-moi l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume s'en sont montrés incapables. Mais toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints réside en toi. Alors Daniel, nommé aussi Belshazzar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit « Belshazzar, que le songe et son explication ne te troublent pas !»«
Monseigneur, répondit Belshazzar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. Tu as vu grandir et se développer un arbre dont la cime touchait le ciel et que l'on voyait de toute la terre. Cet arbre, au feuillage touffu et aux fruits abondants, fournissait de la nourriture pour tous les êtres vivants. Les animaux sauvages venaient s'abriter sous lui et les oiseaux nichaient dans ses branches. Cet arbre, ô roi, c'est toi. Car tu es devenu grand et puissant. Ta grandeur s'est accrue. Elle atteint jusqu'au ciel et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi a vu ensuite l'un de ceux qui veillent, un saint, descendre du ciel et crier « Abattez l'arbre et détruisez-le. Laissez toutefois en terre la souche avec les racines, mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze dans l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel et qu'ils partagent le sort des animaux sauvages. » Jusqu'à ce que 7 ans soient passés. Voici ce que signifie au roi. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre Monseigneur le roi. On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbe comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre, détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices en ayant pitié des pauvres. Peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Tous ces événements s'accomplirent sur le roi Nabuchodonosor. En effet, un an plus tard, il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il prit la parole et dit « N'est-ce pas là, Babylone la grande, que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale ? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela !» Ces paroles était encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbe comme les bœufs et tu seras dans cet état durant 7 ans jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. » Au même instant, la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes, se mit à manger de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut mouillé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle, et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. Au terme du temps annoncé, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je remerciai le Très-Haut, et je louai celui qui vit éternellement, et je proclamai sa gloire, sa souveraineté. Sa souveraineté est éternelle et son règne dure d'âge en âge. Devant lui, tous les habitants de la terre ne comptent pour rien.
Il agit comme il l'entend envers l'armée des êtres célestes et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou dire « Que fais-tu là ?» À l'heure même, la raison me revint. La gloire de ma royauté, la majesté, la splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelèrent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Un texte long, certes, un texte qu'il me semblait important de rapporter dans toute sa longueur, même si, à certains moments, il y a redondance des paroles. Cette redondance n'est pas inutile, cette redondance n'est pas au hasard, et notamment la sentence prononcée contre Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, cette sentence qui est répétée trois fois, est une sentence qui me semble importante. Imaginez l'un des grands de ce monde, peut-être d'ailleurs avec un pouvoir géographique bien moindre que celui qu'avait Nabuchodonosor, qui proclamerait de telles choses. Combien cela semble important et en même temps, combien cela semble étonnant. Vous imaginez Jacques Chirac, George Bush, quelqu'un comme cela, quelqu'un de bien concret, de bien vivant, un personnage historique mais d'aujourd'hui, qui vivrait des choses aussi étonnantes, qui viendrait à proclamer quelque chose d'aussi étonnant. Ça vaut la peine d'être dit, ça vaut la peine d'être entendu. Alors je vous disais tout à l'heure en introduction que j'apprécie d'en savoir sans cesse plus sur ce roi Nabuchodonosor, parce que la déclaration prend d'autant plus de valeur qu'on réalise le pouvoir qui était le sien. Alors c'est quand même important de se rappeler ce personnage, qui est un personnage purement historique, qu'on connaît bien, dont on a tout un tas d'éléments. Par ailleurs, la Bible en parle très peu, à côté de ce que l'archéologie en rapporte. D'abord, cette ville de Babylone. C'est vrai qu'il n'a pas construit Babylone, il en a fait la rénovation. Et effectivement, ce qu'il en dit dans le passage que nous avons lu est purement vrai. C'est vraiment lui qui a rendu à Babylone toute la splendeur qu'elle avait à ce moment-là. Mais la ville elle-même existait bien avant, bâtie très probablement sur les ruines de la tour de Babel. Elle est connue de manière archéologique depuis le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous avez sûrement entendu au moins une fois dans votre vie parler d'Amourabi, le code d'Amourabi, qui est un code très intéressant, dont on a une copie, plusieurs copies même, mais une complète. Ce code d'Amourabi rappelle de nombreux passages bibliques, ce code d'Amourabi, eh bien, c'était le code d'un des rois de Babylone de cette époque-là, à l'époque de la grande splendeur, de la première splendeur de cette ville. Une ville qui ensuite a connu des déboires et puis progressivement est tombée dans l'oubli jusqu'à à peu près le 9e siècle avant Jésus-Christ. Et là, elle va progressivement retrouver sa splendeur. C'est surtout le père de Nebuchadnezzar ou de Nabuchodonosor qui va jouer dans le sens de lui redonner cette splendeur. Il s'appelait Nabopolassar, un nom pas très facile non plus, et il règne juste immédiatement avant son fils, à la fin du 7e siècle, avant Jésus-Christ. Quant à Nebuchadnezzar, il va régner pendant 43 ans sur cette ville, et dès la première année de son règne, il reprend la relève de son père dans son combat contre l'Égypte. En 605, avant Jésus-Christ, à Carchemish, une ville dont on a retrouvé les ruines, une ville qui est intéressante par elle-même, en 605 avant Jésus-Christ, il remporte une victoire historique. Il défait Pharaon et toute son armée, et poursuit cette armée, et arrive dans la Syrie, là plus loin Syrie,
parce qu'à l'époque, il y a deux puissances, hein, l'Assyrie et l'apostrophe Assyrie, et puis là, plus loin, Syrie, à ne pas confondre, l'Assyrie est aussi sur l'Euphrate, l'Assyrie et l'apostrophe. Suse est sa capitale, c'est un peu plus au nord-ouest que Babylone. Quand je dis un peu plus, vu d'ici, c'est très proche, il y a quand même plus d'un millier de kilomètres entre les deux. Mais l'Euphrate est un fleuve immense et pour nous qui, pour la plupart en tous les cas, ne le connaissons pas, vu d'ici, ça paraît tout petit sur les cartes. Donc la Syrie est tout au nord, de là plus loin Syrie, dont le royaume est bien plus vaste que simplement ce que la Syrie moderne a autour de Damas. Donc il arrive vers la Syrie et puis un petit peu plus loin, vers les portes de Jérusalem, vers Juda. C'est lui qui va être l'artisan de la déportation quelques années plus tard de ce qui reste d'Israël. Donc voilà un peu pour placer le personnage, dire que malheureusement pour lui, son royaume n'aura guère de suite. Son fils, comme d'ailleurs Jérémie l'avait annoncé, son fils régnera, d'ailleurs deux de ses fils régneront, l'un très courtement, l'autre un peu plus longuement, mais ce second fils est plus attiré par les choses de la religion que par le royaume, et donc il régnera en même temps que le petit-fils de Nebuchadnezzar, le roi Balthazar, dont le livre de Daniel nous parle également. Et puis, ça sera la fin, Cyrus prendra la ville, et ça sera le règne des Mèdes et des Perses. Voilà pour brosser rapidement le cadre historique de ce roi. Un roi qui va régner donc sur une zone géographique importante, puisque son royaume sera sur l'ensemble de l'Asie mineure, plusieurs royaumes modernes, hein, il régnera sur l'Iran, sur l'Irak, la Syrie, Israël, pour parler simplement de royaumes actuels, une partie du golfe Persique, donc une partie de la Turquie aussi, enfin c'est un royaume immense sur lequel règne Nebuchadnezzar, et il faudra ensuite attendre Cyrus pour avoir un royaume encore plus important, et puis encore après Alexandre pour avoir quelque chose de comparable en termes de surface géographique. On est sur des zones géographiques qu'on a du mal à imaginer, qui sont bien plus grands que ce que par exemple Charlemagne aura bien plus tard. Quant à la ville de Babylone, sous Nabucodonosor, la ville est aussi elle-même remarquable. Imaginez sa surface. Un carré, à peu près, hein, pour faire simple, de 20 km de côté, 400 km carrés de ville. Vous imaginez, c'est beaucoup plus grand que la ville de Paris. C'est une bonne partie de l'île de France. C'est donc un rectangle de 400 km carrés qui se trouve sous la domination de ce roi et qui va la rénover complètement. Au centre de cette ville, il y a une avenue immense. On y rentre par la plus belle des portes, la porte d'Ishtar. C'est les Champs-Élysées du lieu. Cette porte d'Ishtar, qui est très large, permet d'aller vers le temple, mais aussi vers le palais du roi. Tout autour de la ville, il y a d'abord la première enceinte. Cette enceinte fait jusqu'à 25 mètres de large. 100 portes, toutes en bronze, permettent d'entrer dans la ville, tout autour. Un deuxième mur, plus rapproché, double encore la ville. À l'intérieur, c'est tellement grand que tout n'est pas habité. Il y a de nombreux jardins auprès des grandes maisons, des riches seigneurs qui habitent la ville. Il y a aussi ces fameux jardins suspendus tout près du palais. Ces jardins dont une partie probablement a été réalisée une centaine d'années auparavant. Mais Nebuchadnezzar va contribuer fortement à leur développement. En fait, l'une de ses femmes, une étrangère, est nostalgique. Et simplement pour rompre sa nostalgie, il va faire construire sur le toit de plusieurs demeures ces fameux jardins qui seront l'une des sept merveilles du monde. Et puis, il y a de nombreux temples dans la ville. Le plus grand, c'est celui de Marduk. Il fait 400 mètres de large, tout en colonnes. Nebuchadnezzar va reconstruire plusieurs de ces temples, les améliorer, ou en améliorer l'édifice. Il va construire la deuxième enceinte, une enceinte centrale qui sera fortifiée. Il va réparer la porte d'Ishtar. Il va aussi construire, donc comme je le disais tout à l'heure, et améliorer les jardins suspendus. Ces jardins s'élevaient de la porte d'Ishtar jusqu'auprès du palais royal. Et à certains endroits, ils dominaient la ville, semble-t-il, jusqu'à près de 100 mètres de haut. Il les avait construits donc soit sur des maisons, soit sur de vastes colonnages. Et de ces jardins, comme du palais, on pouvait donc dominer l'intégralité de la ville. Il va aussi construire un pont sur l'Euphrate. En fait, il faut dire que la ville s'étale des deux côtés de la rivière. Ça va d'ailleurs être un point faible, c'est par là que Cyrus passera quand il prendra la ville. Mais les deux parties de la ville sont relativement isolées l'un de l'autre et il va réaliser un pont gigantesque pour faciliter le passage, non seulement économique mais aussi militaire, entre les deux parties de la ville. Il va construire également un deuxième palais hors de l'enceinte centrale. Ça sera ce palais-là qu'il utilisera le plus fréquemment parce qu'il est en limite des jardins suspendus. Ce palais, dont une grande partie est conservée, comporte de nombreuses salles avec des décors en carrelage émaillé qui sont d'un relief somptueux. Voilà quelques éléments qu'on peut dire sur ce que Nebuchadnezzar va apporter à cette ville. Alors, quant au verset 27, il est là, qu'il se promène sur la terrasse du palais royal, tout en haut de la ville, à côté de ses jardins suspendus, qu'il voit les jardins, qu'il voit tout au loin l'Euphrate, qu'il voit tous ces quartiers de la ville et qu'il dit « N'est-ce pas là, Babylone, la grande, que moi j'ai bâtie ?» Et oui, il l'a bâtie ou il l'a rebâtie pour en faire ma résidence royale. C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. Est-ce qu'il ne pouvait pas dire des choses comme celle-là? Est-ce qu'il ne pouvait pas avoir quelque fierté de ce qu'il a fait, des raisons pour lesquelles il était fier? Oui, il avait quelques raisons à cette fierté. Et chaque fois que je lis cela, pour moi, c'est quand même évocateur. Qui d'entre nous n'a jamais été fier de quelque chose qu'il a fait? Vous savez que je suis en train de préparer mon déménagement sur Colobrière et donc je vais habiter dans la maison familiale et là, tout autour, de nombreuses maisons sont en train de se construire. Certaines modestes, d'autres un peu moins. Chacun met là, souvent, une bonne partie des économies de son existence. Plusieurs de ces personnes sont des personnes ayant atteint un âge déjà certain, ou c'est probablement la construction dans laquelle ils passeront leur retraite. La construction qui est en même temps un signe de leur réussite économique. Il faut dire que le quartier est devenu un quartier où on ne s'installe pas comme cela, et rien que le fait d'y acheter est déjà le signe d'une certaine réussite économique. Et donc la maison qui va avec généralement la piscine associée, c'est bien là pour énoncer ce que l'on est, ce que l'on vit. Bien sûr, c'est pas le palais de Nebuchadnezzar. Tout le monde ne se paierait pas le palais de Nebuchadnezzar. Mais en même temps, ils ont quelques raisons de fierté de ce qu'ils sont en train de construire. Mais tout le monde ne place pas sa fierté là-dedans. Nous avons tous et toutes
nos petits jardins, secrets ou non d'ailleurs. Parce que pour certains, ça reste secret, c'est sa fierté personnelle, intime, on ne la montre pas forcément. Pour d'autres, au contraire, c'est une occasion de montrer qu'on a fait telle ou telle chose et qu'on en est heureux. Nebuchadnezzar a quelques raisons de fierté, et nous aussi nous avons quelques raisons de fierté. Alors, est-ce que c'est mal d'être fier de quelque chose? En tous les cas, ce qui est important, c'est de se rappeler ce que Nebuchadnezzar avait oublié. À savoir que c'est Dieu qui donne toutes choses. Et quoi qu'on ait, quels que soient les talents qu'on ait, donc quels que soient les objets matériels, quelles que soient les capacités personnelles, quels que soient les revenus, qui bien souvent d'ailleurs marchent avec les talents qu'on a su exploiter, quels que soient les moments de tranquillité, parce qu'après tout je parlais par exemple tout à l'heure de retraite, c'est-à-dire d'un temps où nous pouvons jouir des fruits de notre travail, mais bon, rappelons-nous quand même que plus des trois quarts de l'humanité ne connaît pas ça, ne sait même pas ce que c'est la notion de jouir du travail de leurs mains après un certain âge. Eh bien tout cela, ça vient de Dieu. Que c'est Dieu qui donne, que c'est Dieu qui reprend. Or c'est un message tout simple, mais c'est en même temps un message tellement constant dans l'Écriture, dont on retrouve aussi bien des éléments dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous Hérode qui proclame, qui harangue la foule, et la foule qui dit « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Et lui qui va mourir, atteint par la maladie, parce que lui non plus ne savait pas rendre à Dieu la gloire des choses. Alors un premier message que je retrouve dans ce passage et qui me semble important de relever, c'est quand même de nous rappeler qu'il n'y a pas une chose dans notre vie dont nous pouvons dire « c'est moi qui me le suis acquis, c'est moi qui me le suis gagné ». Toutes choses viennent de Dieu qui nous l'a donné. Nous sommes nés tout nus. Et c'est ainsi que nous partirons, on nous mettra peut-être quelques vêtements pour accompagner la dépouille mortelle dans la tombe. Mais qu'est-ce que nous emmènerons vers notre Seigneur? Rien. Toutes choses nous viennent de Dieu. Et je crois que c'est important de se rappeler constamment ce message. C'est important de se rappeler que tout vient de Dieu, parce que ça peut changer notre regard sur tout ce que nous sommes, sur tout ce que nous avons, sur tout ce que nous possédons. Ça peut changer notre regard sur la manière dont nous en disposons, dont nous sommes prêts à nous en détacher pour regarder à ce qui était essentiel, ou encore pour regarder à celui à côté de nous qui n'a pas eu les mêmes bénédictions matérielles dans sa vie. C'est une première leçon de ce passage, mais je crois qu'il y en a d'autres. La deuxième leçon que j'aimerais remarquer dans ce passage, c'est quand même la souveraineté de Dieu. Vous imaginez le plus grand de son époque qui se retrouve dans les champs à brouter comme une bête. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le texte n'est pas avare de détails pour nous décrire la chose. On sait seulement qu'il existe une maladie psychanalytique qui s'appelle la lycanthropie. Et que cette maladie fait qu'au lieu de se prendre pour Napoléon Bonaparte, les gens qui en sont atteints se prennent pour des bêtes. Certains des poules, d'autres des vaches. Et que malheureusement, ces gens-là en sont, si personne ne les freine, à vouloir avoir le comportement des bêtes. Exactement comme ces fous caricaturaux qu'on voit à la main comme ça, se prenant pour un autre. Et bien sûr, leur royaume ne dépasse pas les portes du lieu où on les enferme. Mais il faut bien intervenir parce qu'ils peuvent être même dangereux pour eux-mêmes. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour les lycanthropes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, si on ne les freine, peuvent se retrouver à se prendre réellement pour des bêtes. et probablement c'est quelque chose comme ça qui a dû lui arriver. En tous les cas, peu importe. L'histoire, même récente, nous montre tel dictateur renversé le lendemain, parfois mort le lendemain. L'histoire, même récente, nous montre des revers électoraux, nous montre des hommes politiques rattrapés par des affaires qui, peut-être, il y a 50 ans, n'a jamais rattrapé leurs prédécesseurs. Qu'est-ce que nous sommes ? Dieu est souverain. Alors bien sûr, Dieu, dans sa souveraineté, n'agit pas toujours de manière dirigiste. Il agit même souvent en laissant beaucoup de liberté à chaque être humain. Mais le texte biblique est là pour nous rappeler que toute autorité aura à rendre des comptes parce que justement, Dieu est souverain de la manière dont ils auront agi ou dont elle aura agi. Dieu est souverain, ça signifie aussi que Dieu est souverain dans ma vie. Dieu est souverain comme quand la maladie me rattrape. Dieu est souverain quand le revers économique peut-être me rattrape. Je crois que c'est important de le redire. De le redire parce que il n'y a rien qui échappe à notre Dieu. Et peut-être parfois, lorsque cette difficulté nous atteint, nous avons l'impression que cela a échappé à Dieu. Alors nous avons eu Gérard qui, deux dimanches de suite, nous a rappelé ce qu'était l'accompagnement et ce qu'était aussi la difficulté de celui atteint par l'épreuve. Je ne veux pas en reparler ici, et peut-être mon message insiste un peu trop sur la souveraineté, sans parler en même temps de la compassion de Dieu. Mais je pense que c'est important aussi de prendre le temps de ce que ça signifie, de se rappeler de ce que ça signifie la souveraineté de Dieu. Parce que nous sommes face à ce Dieu qui effectivement domine sur tout événement, domine sur toute personne. S'il laisse la liberté, s'il laisse les dérapages, ça ne veut pas dire que cela lui échappe. S'il permet aussi à certains moments que certains hommes soient rattrapés par leur oubli de la souveraineté de Dieu, ça ne veut pas dire non plus qu'il le fait pour tous. Tel dictateur est rattrapé un jour par ses actes sur cette terre et tel autre meurt dans son lit. Dieu demandera des comptes à l'un comme à l'autre. Mais c'est vrai aussi que dès cette terre, nous pouvons savoir que Dieu est souverain et qu'il peut agir quand, à certains moments, il estime que c'est important de le faire. Pourquoi dans certains cas ? Pourquoi pas dans d'autres ? Pas plus que Gérard, dans sa prédication par rapport à la maladie, je n'ai de réponse à donner à ce sujet. Mais n'empêche qu'il y a cette différence. À certains moments, Dieu rattrape telle personne. Et Dieu attend, comme paisiblement, le moment où il y aura le jugement dernier pour rattraper telle autre personne. Dieu est souverain et c'est la leçon principale que Nebuchadnezzar va devoir découvrir. Il va devoir s'agenouiller devant Dieu. Mais peut-être dans ma vie, je n'ai pas encore découvert cette leçon. Elle est importante. Elle est d'abord importante si je n'ai jamais découvert que j'aurais des comptes à rendre à Dieu. Tu es là ce matin assis sur ta chaise et tu as l'occasion d'entendre ce message. Dieu te demandera un jour des comptes. Où en es-tu avec lui ? La Bible nous enseigne que chaque être humain aura des comptes à rendre à Dieu. Chaque être humain devra rendre des comptes pour ses actes et que s'il se présente comme cela, chaque être humain ne pourra être que condamné parce que ce que nous faisons déplaît à Dieu. Qui d'entre nous n'a jamais menti ? Qui d'entre nous n'a jamais manqué de respect à ses parents ? Qui d'entre nous peut dire qu'il a toujours honoré Dieu. Ce sont simplement 3 commandements que j'ai pris parmi les 10. Et il n'y a pas que les 10 commandements dans la Bible qui sont là pour nous dire que dans notre vie, il y a des tas de choses que nous avons faites et qui lui déplaisent. Et la Bible montre aussi parce qu'aucun être humain ne pourra se présenter devant lui juste, avec des actes qui le justifient, avec des actes qui sont là pour plaider pour lui. Eh bien, tout être humain est condamné par avance, sauf si nous acceptons le moyen que Dieu a trouvé pour régler ce problème. Tous nos actes nous condamnent, mais Jésus-Christ est venu pour subir cette condamnation à notre place. Alors si tu es là et que tu ne connais pas cette justice de Dieu, cette possibilité d'être déclaré juste devant lui, toi qui es injuste parce que tu as commis des actes qui lui déplaisent, eh bien, je pense que c'est important que tu viennes voir à la fin de ce culte quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui pourra t'expliquer cela. Jésus est mort pour tes péchés, alors n'attends plus pour reconnaître cette souveraineté de Dieu sur ta vie. N'attends plus pour connaître cette délivrance. Mais j'aimerais aussi parler à celui qui est assis sur cette chaise, comme moi, connaît le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il est vraiment le Seigneur de ta vie? Combien de fois dans ta vie comme dans la mienne, nous faisons des actes qui montrent que dans tel ou tel domaine, nous sommes restés des petits seigneurs et que nous avons besoin de plier le genou. Nous avons besoin de dire « Oui Seigneur, dans ce domaine-là, j'ai besoin d'aller plus loin avec toi. Oui Seigneur, j'ai besoin de repartir avec toi. » C'est là aussi, me semble-t-il, l'un des messages que nous recevons au travers de ce que Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor a dû découvrir. Maintenant, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles et tout ce qu'il fait est juste, et il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Il se reconnaît un être pécheur devant Dieu, et il se reconnaît comme quelqu'un qui a besoin d'aller plus loin avec Dieu. C'est intéressant de savoir que Nabucodonosor avait déjà une connaissance de Dieu. Ça peut peut-être surprendre certains. Relisez les chapitres précédents. Relisez ne serait-ce que les versets qui précèdent le chapitre 4. C'est lui aussi qui déclare et qui demande à ce que dans toutes les langues du royaume sur lequel il domine, vers toutes les nations dont il est le roi, on fasse connaître le message suivant. Il m'a paru bon de vous faire connaître les signes extraordinaires et les prodiges que le Dieu Très-Haut a accomplis envers moi. Que ces signes sont extraordinaires, ces signes extraordinaires sont grands et ces prodiges éclatants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste d'âge en âge. Il savait des choses. Et pourtant, quelle expérience il doit vivre au chapitre 4. C'est pour cela que ça me semble aussi parler à ceux qui savent des choses sur Dieu, à ceux peut-être qui se déclarent de ses enfants et qui pourtant ont encore des choses à lâcher devant Dieu. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul explique qu'il écrit à ses chrétiens comme à des enfants parce qu'ils en sont au lait, qu'ils sont des enfants, ils n'ont pas eu cette croissance spirituelle qui est pourtant nécessaire pour devenir des hommes faits, c'est-à-dire des adultes dans la foi. Nous avons tous à connaître ce chemin de la croissance spirituelle. Et c'est un chemin, autrement dit, ce n'est pas quelque chose où nous pouvons dire « nous sommes parvenus », c'est un chemin de toute la vie. C'est seulement quand nous connaîtrons la glorification de notre être au retour du Seigneur Jésus-Christ qu'alors nous serons vraiment totalement semblables à lui. C'est, me semble-t-il, une deuxième leçon, une leçon très importante. La dernière leçon que j'aimerais partager avec vous à partir de ce passage, elle est dans les versets que je rappelais à l'instant. Il agit en accord avec ses paroles. Notez que Nebuchadnezzar a entendu à deux reprises les paroles le condamnant, une première fois de la bouche de Daniel, une deuxième fois de la voix qui s'est exprimée dans le ciel. Je ne sais pas s'il a eu un réel délai au-delà de la deuxième voix, il semblerait plutôt que ça soit le début du jugement, plus qu'une deuxième occasion pour lui de revenir en arrière. Donc je ne sais pas, compte tenu des détails du texte, s'il aurait pu encore faire quelque chose, s'il aurait pu encore faire une déclaration publique contredisant instantanément ses paroles. Mais en tous les cas, il a eu du temps pour méditer ou oublier les premières paroles. Mais je pense que s'il les avait oubliées, les deuxièmes ont dû sonner comme quelque chose qu'il avait déjà entendu. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, des fois, j'oublie des trucs, mais alors vraiment, même basiques. Et puis, je les entends une deuxième fois, je dis, c'est bizarre, j'ai déjà entendu ça quelque part. Puis, en cherchant bien, je retrouve qu'effectivement, j'avais déjà entendu ça parce que ça m'avait déjà été dit. Ça peut être une histoire que je redécouvre, ça me fait dire que je suis bon public puisque je peux entendre deux fois les mêmes histoires et en rigoler autant la deuxième fois que la première. Mais parfois, ce sont des choses plus embêtantes. L'expérience, c'est savoir tirer parti de ce que l'on a déjà vécu. Et alors, quand on a une petite mémoire comme la sienne, on redécouvre par l'expérience, une deuxième fois, la bêtise qu'on avait faite la première. Et on se dit, mince, qu'est-ce que je suis stupide, je refais exactement la même erreur. L'amnésie de certaines choses est plus forte que d'autres. D'ailleurs, il est bien connu qu'on oublie plus facilement ce qui nous embête que ce qui nous fait plaisir. Et je ne sais pas du tout si Nebuchadnezzar a eu une amnésie totale sur les paroles de Daniel, mais en tous les cas, il les avait oubliées. Et quand il les a réentendues, ça a dû réactualiser des choses. Autrement dit, lorsqu'il fait cette déclaration, il agit en accord, il, c'est Dieu, agit en accord avec ses paroles, il parle d'expérience. Il vient de vivre une expérience terrible. Mais est-ce que parfois nous n'oublions pas les paroles de Dieu ? Ça nous interpelle à plus d'un niveau. Vous savez, on relit des passages bibliques, on dit quand même ces juifs. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils entendent comme foi les mêmes paroles des prophètes ? Pas forcément des mêmes prophètes. Pour comprendre. Notez le nombre de siècles et de prophètes qui sont venus leur parler, par exemple, de leur idolâtrie. Il semble d'ailleurs que c'est fini par payer dans le sens où, après la déportation, on a beaucoup moins de problèmes avec l'idolâtrie pure et simple. Il y a d'autres problèmes quand ils reviennent, après l'édit de Cyrus. Il y a d'autres problèmes, mais vous remarquerez que les prophètes ne reprêchent plus exactement les mêmes choses. Il semble qu'ils aient compris par rapport à l'adoration et à l'idolâtrie des dieux voisins, au moins dans l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus d'idolâtrie, elle se présentera différemment, les problèmes se présenteront différemment. Mais combien de siècles où, quand vous lisez votre Bible, vous avez l'impression que ça se répète ? Est-ce que dans notre vie, nous n'avons pas besoin aussi que ces paroles se répètent ? Parce que nous oublions vite que les paroles de Dieu ont été prononcées et que ces paroles s'accompliront. Alors c'est un encouragement à ne pas nous lasser de relire ces paroles. Moi je me lasse vite, hein. J'ai besoin qu'on m'encourage et qu'on me réencourage à lire ces paroles qui se ressemblent et pourtant qui sont là pour notre encouragement, pour notre édification, pour éviter qu'on oublie. Et puis, nous avons besoin aussi de nous rappeler que ces paroles sont vraies, que même si elles tardent à s'accomplir, elles s'accomplissent nécessairement. Alors, tout à l'heure, nous allons vivre la scène. Et l'apôtre Paul nous a dit que eh bien, nous accomplissons cela jusqu'à ce qu'il vienne. Rappelons-nous que ces paroles-là aussi sont des paroles qui vont s'accomplir. Le Seigneur revient, ne nous lassons pas, ne nous relâchons pas, attendons-le. Le Seigneur nous fait aussi un certain nombre de promesses personnelles dans l'Écriture, qui sont là pour nous encourager dans notre vie de tous les jours. Ne croyons pas que ces paroles sont en vain. Ce sont de vraies paroles. Peut-être que dans le moment de l'épreuve, le doute que Satan sème peut nous amener à croire qu'elles ne s'accompliront pas. Eh bien si, ces paroles s'accompliront de la même façon qu'elles se sont accomplies dans la vie de Nebuchadnezzar. En conclusion, j'aimerais lire avec vous quelques versets dans la lettre aux Romains. Ces paroles, me semble-t-il, sont premièrement énoncées pour ceux qui ne connaîtraient pas le Seigneur, mais elles me semblent importantes. Romains chapitre 2, les versets 4 et 5. Évidemment, si on se trompe de livre, on n'a pas les bonnes paroles. Ou alors, exprime l'apôtre Paul à celui qui l'interpelle à partir du début du chapitre 2, toi donc, qui que tu sois, qui condamne ses comportements, etc. Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer de vie. Par ton entêtement et ton refus de changer de ta manière de vivre, tu prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. En conclusion donc, j'aimerais une nouvelle fois t'interpeller. Toi qui ne connais pas le Seigneur, médite ces versets qui affirment sa bonté, sa patience, sa générosité à ton égard. Rappelle-toi qu'un jour, il te jugera. Amen.